Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le calme est revenu ce matin dans la bande de Gaza à la faveur d'un cessez-le-feu annoncé par les Palestiniens. Voilà qui met un terme au plus grave accès de violence avec Israël depuis des années, mais sans aucun règlement à long terme en vue.
Donald Trump a annoncé hier une nouvelle hausse des droits de douane sur près de 200 milliards de dollars de produits chinois au risque de faire capoter les discussions commerciales avec Pékin.
Et la Chine qui assure cependant que les négociations restent à l'ordre du jour.
L'ouverture d'un procès fleuve cet après-midi.
Le procès de l'affaire France Télécom doit durer jusqu'au 12 juillet. Il y a 10 ans après une vague de suicides sans précédent, 7 prévenus, dont l'ancien patron de l'entreprise, Didier Lombard, comparaissent à partir d'aujourd'hui. C'est un nouveau cri d'alarme sur l'extinction des espèces et le déclin de la faune, comme de la flore. Les experts de l'ONU sur la biodiversité ont dévoilé ce matin une évaluation mondiale des écosystèmes qui vient s'ajouter à l'abondance de preuves sur le rythme dramatique auquel la nature s'éteint. Enfin, l'occasion du lancement de la campagne pour les européennes. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Que mangions-nous, que mangeons-nous et que mangerons-nous? Passé, présent, futur, une histoire de l'alimentation. On va en parler avec notre invité, l'essayiste et économiste Jacques Attali, qui sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Merci, à tout à l'heure. Parce que les violences du week-end dans la bande de Gaza et le sud d'Israël ont non seulement fait voler en éclats le cessez-le-feu conclu il y a plusieurs semaines en vertu duquel l'État hébreu et le Hamas négociaient une trêve, mais également parce qu'après que près de 30 morts, cette nouvelle poussée de fièvre a fait redouter un quatrième conflit entre les parties depuis 2008, l'arrêt des hostilités entré en vigueur tôt ce matin paraît plus fragile que jamais. Certes, le fracas des armes a effectivement cessé avant la levée du jour, pour autant, aucune confirmation n'a été obtenue du côté israélien. Par ailleurs, en l'absence persistante de toute reconnaissance de l'existence d'Israël par le Hamas, comme de tout horizon politique pour une paix négociée, l'incendie a beau avoir été circonscrit ce matin, le feu menace de reprendre à tout moment, car cet affrontement a vite fait de relancer aujourd'hui le débat en Israël d'une solution militaire contre Gaza. Le Premier ministre défend une politique modérée de négociation indirecte avec le Hamas pour tenter de préserver le calme, mais à proximité de l'enclave, les habitants, eux, témoignent de leur ras-le-bol et d'un esprit pour le moins radical, comme en témoigne le reportage de notre correspondant Étienne Monin.
Ce que l'on voit dans le hangar de cette compagnie qui fabrique des conduites en ciment, c'est l'impact de la roquette qui a tué l'une des 4 victimes israéliennes pendant les affrontements. On est à Ashkelon, à 10 minutes de Gaza. Cette zone industrielle est désertée. Sur le parking du supermarché à côté, on ne croise qu'une poignée de clients, parmi lesquels Sarah, qui veut à la fois résister à la peur et ne plus entendre parler de Gaza.
On n'a pas de partenaire pour discuter. Ils ne veulent pas réellement la paix. Ils veulent nous expulser d'Israël. Il faudrait que l'Égypte ouvre ses frontières et les laisse sortir. Ça n'est pas le problème d'Israël.
En Israël, le Premier ministre est critiqué sur sa droite pour sa politique de négociation indirecte avec le Hamas. Son souci du statu quo n'a pas empêché les tirs de roquettes. Mordechai, qui vit à côté de Gaza depuis 4 ans maintenant, plaide pour une solution militaire radicale dans un contexte de ras-le-bol, dit-il.
Ça se répète. Mon sentiment personnel, ça serait ouais, de tout irradier d'une seule manière, c'est tout. Ça fait quand même 20 ans que ça dure. Hein.
Pour l'instant, Israël est dans un entre-deux, dans l'attente de l'Eurovision qu'elle organise la semaine prochaine et de la formation du nouveau gouvernement très à droite de Benjamin Netanyahou.
Alors précisons qu'effectivement le contexte ne prête pas particulièrement à la sérénité. Benjamin Netanyahou est actuellement engagé dans des négociations pour former une nouvelle coalition avec les partis ultra-orthodoxes et l'extrême droite. Quant aux États-Unis, s'ils ont promis de dévoiler un plan de paix après la fin du Ramadan début juin, on sait d'ores et déjà que celui-ci ne devrait pas inclure la formule dite à deux États, pourtant au cœur de la diplomatie mondiale depuis des années. Enfin, quand Washington apporte un soutien inconditionnel à Israël, Téhéran, de son côté allié du Hamas, dénonce l'agression sauvage de l'armée israélienne. Les États-Unis ont d'ailleurs déployé des bombardiers au Moyen-Orient, manière de signaler clairement à l'Iran que toute attaque contre ses intérêts ou contre ses alliés sera sanctionnée. On ne compte plus aujourd'hui les revirements du président américain dans sa guerre commerciale avec son homologue chinois. Le chef de la Maison-Blanche a annoncé hier que 200 milliards de dollars de produits chinois, jusque-là soumis à des droits de douane de 10%, seraient taxés à hauteur de 25% dès vendredi prochain. Donald Trump avait pourtant reporté cette hausse en invoquant lui-même des négociations fructueuses avec la Chine. Alors, c'est peu de dire que les responsables chinois ont été plutôt surpris par cette annonce, d'autant que doit s'ouvrir cette semaine un nouveau cycle de discussions. Les précisions à Pékin de notre correspondant Dominique André.
L'équipe de négociateurs chinois se prépare à partir aux États-Unis pour des pourparlers, confirme le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Mais le mystère plane sur le déplacement dans la capitale américaine du principal négociateur, Liu He, un proche du président Xi Jinping. À Pékin, les autorités sont surprises par ce brusque revirement de Donald Trump. Le Global Times, journal nationaliste du Parti communiste, affirme qu'il est peu probable que Liu He se rende à Washington, ou alors il écourtera son séjour, croit savoir le South China Morning Post, le grand quotidien de Hong Kong. Les nouvelles menaces de Donald Trump ont fait plonger les bourses asiatiques. Shanghai a cédé plus de 5%. Les analystes se demandent s'il s'agit d'une tactique de négociation de la part des Américains ou si la guerre commerciale va repartir de plus belle. Il y a 3 jours, le Financial Times, citant des sources proches des discussions, affirmait qu'un accord était proche, mais qu'il fallait encore progresser sur la mise en œuvre d'un mécanisme de contrôle voulu par Washington. Sur la question stratégique des transferts de technologie, il semblerait qu'il y ait eu des propositions sans précédent. La Chine a besoin d'un accord commercial pour relancer sa croissance économique.
Au moins 41 personnes sont mortes hier dans l'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie russe Aeroflot qui s'est entièrement embrasé à l'aéroport de Moscou quelques minutes seulement après son décollage. Les causes de la catastrophe ne sont toujours pas connues. Ce matin, le pilote a mis en cause les conditions météorologiques difficiles. En Thaïlande, les cérémonies du couronnement en grande pompe du nouveau roi débuté samedi dernier doivent s'achever aujourd'hui. Restent les incertitudes liées à la personnalité déroutante de ce monarque imprévisible, favorable à la mainmise de l'armée sur le pouvoir. Plus d'un mois après les élections législatives, les deux camps, pro-junte et anti-junte, revendiquent la victoire, cherchant à former une coalition pour obtenir une majorité à la chambre basse du Parlement. Au Panama, le social-démocrate Cortizo, favori des sondages, a revendiqué hier la victoire à l'élection présidentielle. Son opposant de droite, lui, refuse pour l'instant de reconnaître sa défaite. Sur près de 90% des bulletins de vote dépouillés, à peine 2 petits points séparent les deux hommes. Et puis, on vote également hier en Macédoine du Nord, où le candidat de la coalition pro-occidentale au pouvoir, Stevo Pendarovski, est arrivé en tête du scrutin devant sa rivale de la droite nationaliste. En Libye, où depuis un mois s'affrontent les forces du maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'Union nationale pour le contrôle de la capitale Tripoli, les Nations Unies ont eu beau lancer hier un appel à une trêve humanitaire d'une semaine. L'homme fort de la province orientale du pays a demandé au contraire à ses troupes de se battre avec davantage encore de ferveur, et ce alors que débute aujourd'hui le jeûne du Ramadan. Quel avenir pour les enfants de familles djihadistes en Syrie après l'élimination du dernier bastion de Baghouz? 6 enfants ont été jusqu'à présent rapatriés en France, sauf qu'ils sont encore des dizaines à attendre dans des camps. On parle de 150 à 200 enfants. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les grands-parents de 2 de ces enfants malades et blessés, âgés de 3 et 4 ans, retenus avec leur mère djihadiste dans un camp du Kurdistan syrien, ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir la condamnation de la France qui refuse de les rapatrier. Jade Péchira, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce n'est pas la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme est saisie sur des questions similaires. En revanche, Jade, ce cas présente plusieurs nouveautés.
Oui, alors déjà, pour la première fois, la CEDH n'est pas saisie en référé, en urgence donc, mais sur le fond de l'affaire. Les avocats veulent une décision qui ira au-delà de ce cas. Autre différence, la Cour est saisie sur une motivation encore jamais relevée et qui pourrait donc tout changer. Maître Marie Dauzet est l'un des avocats de la famille des enfants.
La France viole le protocole numéro 4 de la Convention européenne qu'elle a ratifié et qui dispose que nul ne peut être privé du droit d'entrée sur le territoire de l'État dont il est ressortissant.
Mais statuer sur le fond peut prendre du temps. Les avocats de la famille demandent donc un traitement prioritaire au vu de l'urgence de la situation des enfants dans ces camps.
La plupart d'entre eux sont arrivés de Baghouz épuisés, malades, blessés, ont été faits prisonniers par les Kurdes et ont été amenés dans ce camp, le camp de Halol, où 74 000 personnes s'entassent. Donc les enfants sont malnutris, ils ne sont pas soignés et certains périssent de leurs blessures.
Choléra, tuberculose, dysenterie, sans compter le froid qui a tué 29 enfants et nourrissons pendant l'hiver. Maître Dauzet ne comprend pas le positionnement de la France.
On nous a expliqué que c'était une politique du cas par cas. On ne peut pas choisir entre des enfants, celui qui aura le droit de vivre et celui qui aura le droit de mourir.
L'avocate qui pose enfin une autre question, celle de la sécurité. Si ces familles ne sont pas jugées en France, elles risquent, dit-elle, de se disperser, voire d'être à nouveau embrigadées dans des cellules djihadistes restantes.
Merci Jade Péchira. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 doit être jugée pour harcèlement moral. 10 ans après la vague de suicides à France Télécom, devenue Orange, le procès de ses ex-dirigeants, dont son ancien patron Didier Lombard, démarrera cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. En 2008 et 2009, 35 salariés s'étaient donné la mort. Et dans un pays où les troubles psychiques liés au travail explosent, eh bien la souffrance au travail sera bien entendu au cœur de ce procès. Les précisions d'Antoine Marette.
La souffrance au travail, dont France Télécom est devenue le symbole à la fin des années 2000, va être au cœur de ce très long procès. En 2008 et 2009, ce sont 35 salariés qui se donnent la mort, parfois même sur leur lieu de travail. Certains laissent des lettres sans aucune ambiguïté. Ils accusent l'entreprise d'être la responsable directe de leurs gestes. Mais ces suicides ne sont que la face émergée de l'iceberg, car derrière ces tragédies, c'est tout un fonctionnement qui est mis en cause, celui de France Télécom entre 2007 et 2010. Une entreprise en pleine mutation avec les défis de la privatisation et des nouvelles technologies. Dans leur ordonnance de renvoi devant le tribunal, les juges d'instruction évoquent un harcèlement moral organisé à l'échelle d'une entreprise par ses dirigeants. 4 prévenus, dont l'entreprise, comparaissent pour harcèlement moral. Dans le code pénal, il s'agit d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. 4 autres responsables sont jugés pour complicité. Les personnes physiques encourent 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. France Télécom risque jusqu'à 75 000 euros d'amende.
J'ajoute que ce procès fleuve est prévu pour durer jusqu'au 12 juillet. Après 11 ans de bataille judiciaire, la tentaculaire affaire Bettencourt touche à sa fin. La justice a rendu samedi un non-lieu en faveur de la fille de l'héritière de L'Oréal, accusée de subornation de témoins dans le dernier volet de ce conflit familial qui aura menacé de tourner au scandale d'État. La nature souffre comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui ressort d'un rapport alarmant sur la biodiversité publié aujourd'hui par un groupe d'experts internationaux où quand l'on apprend par exemple qu'un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction. Véronique Robérod, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'UNESCO, vous venez donc d'assister à la remise des conclusions de ce rapport accablant. Peut-on dire, Véronique, que l'on assiste là à la plus violente crise biologique depuis l'avènement de l'homme moderne ?
Et ce n'est plus seulement la branche sur laquelle il est assis que l'homme scie avec une énergie destructrice ces dernières décennies, mais carrément l'arbre, la forêt entière, une espèce sur 8, animale et végétale, pourrait disparaître de la surface de la Terre ou du fond des océans à brève échéance et à cause des activités humaines, un effondrement du vivant dû à l'action de l'homme qui menace d'extinction davantage d'espèces au niveau mondial que jamais auparavant, lit-on dans ce rapport. Quelques chiffres, il y en a beaucoup bien sûr, sur l'état de la biodiversité mondiale, 41% des amphibiens sont menacés à court terme d'extinction, 25% des mammifères, 19% des reptiles, 33% des coraux, plus de 13% des oiseaux. Aucun groupe d'espèces n'est épargné. 75%, les 3/4 de l'environnement terrestre et 66% de l'environnement marin, nous dit ce rapport, est gravement altéré, modifié par les activités humaines. Et peut-être n'est-ce là que le début de la fin, si j'ose dire, puisque dit le rapport, rien n'est fait pour arrêter la machine à broyer le vivant, eh bien les experts n'excluent pas une nouvelle accélération du rythme mondial d'extinction.
Et puis l'intérêt de ce rapport, Véronique, c'est aussi qu'il hiérarchise les facteurs de la perte de la biodiversité mondiale.
Oui, en tête des impacts négatifs sur la biodiversité arrive le changement d'usage des milieux naturels, autrement dit la destruction et la fragmentation des habitats. C'est ce qui arrive quand on déforeste au profit de cultures agricoles, de terres d'élevage et bien sûr aussi d'étalement urbain. Il y a aussi la surexploitation des ressources naturelles, il y a aussi bien les pollutions de toutes sortes et les impacts du changement climatique sur la biodiversité, alors qu'il n'était considéré jusque-là que comme un facteur aggravant, et bien le réchauffement climatique climatique est devenu un facteur déterminant majeur dans la perte de la biodiversité. Sans surprise, le rapport préconise que toutes les parties du monde, et surtout celles qui subiront le plus les effets négatifs importants donc de cette perte de biodiversité, bien ces endroits abritent de grandes concentrations de peuples autochtones et beaucoup de communautés les plus pauvres. Alors quelle solution ? La perte de ce patrimoine commun peut encore être enrayée, assurent les chercheurs. Les experts de la biodiversité ne voient pas d'autre solution qu'un changement radical de nos modèles économiques. Ils mettent en cause, eh bien, un modèle de consommation insoutenable à l'échelle aussi bien individuelle que planétaire. Ils mettent en avant la nécessité de réformes fondamentales des systèmes financiers et économiques mondiaux. Il en va de notre survie, dit une rapporteuse de ce rapport. La biodiversité, ce n'est pas que joli, eau, nourriture, énergie, médicaments. L'homme ne peut pas vivre sans les services rendus par cette nature qu'il s'évertue pourtant à détruire.
Merci Véronique Robérot en direct de l'UNESCO ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Et pendant ce temps, les ministres de l'environnement des pays du G7 et de 9 autres États, comprenez des pays riches et ou des pays pollueurs, ont ouvert hier à Metz 2 jours de discussion placés sous le signe justement de la biodiversité. Ce rendez-vous doit aboutir à la signature d'une charte pour la protection des espèces animales et végétales. Reste à savoir, au-delà des discours pétris de vœux pour la planète, ce que les pays signataires sauront offrir comme preuve de leur engagement. Enfin, l'environnement toujours et encore, mais aussi l'emploi. Voilà les deux thèmes sur lesquels Édouard Philippe et une partie du gouvernement ont commencé à plancher ce matin avec plusieurs associations d'élus, mais aussi des syndicats, des organisations patronales. Une réunion aux heures de main tendue après la promesse d'Emmanuel Macron d'écouter davantage les corps intermédiaires pour tenter d'éteindre la crise des gilets jaunes. Après sa réunion à Matignon, Édouard Philippe se rendra à Caen ce soir pour soutenir la tête de liste de la majorité pour les européennes, Nathalie Loiseau. Une estrade commune inédite avec plusieurs ministres du gouvernement, preuve sans doute que l'exécutif est trié par l'opposition qui reproche notamment au parti présidentiel de traîner pour dévoiler son programme, a bien conscience que ce premier test électoral dans l'atmosphère délétère actuelle entretenue par les convulsions sociales, lesquelles ont probablement modifié quelque peu l'enjeu de ce scrutin, sera capital pour la crédibilité tant européenne que nationale de la majorité. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors à 3 semaines du scrutin, le sprint final est en réalité engagé pour tout le monde. La France alignera 33 listes au total, un record. Ce qui à première vue pourrait sembler paradoxal dans un climat de défiance envers les politiques et pour un scrutin où la participation n'a jamais cessé de baisser.
Oui, ce record de 33 listes, on le doit tout d'abord au changement d'échelle du mode de scrutin par rapport aux dernières élections européennes. Une circonscription unique au lieu des 8 qui ont été utilisées lors des 3 derniers votes de 2004 jusqu'en 2014. Moins de candidats à réunir, donc cette année ça facilite évidemment la constitution des listes, même si lors de la dernière élection de ce type avec un scrutin de liste nationale, c'était en 1999, 20 listes seulement avaient été déposées, bien loin donc de notre cru 2019 avec ses 33 propositions. C'est la conséquence évidemment d'un paysage politique en profonde mutation. Emmanuel Macron est passé par là à la présidentielle. Les partis ne s'en sont pas complètement remis, mais au-delà, n'y a-t-il pas un manque de stratégie collective dans ces grandes familles politiques traditionnelles avec des représentants qui ont préféré partir en solo quitte à disperser pour ne pas dire déboussoler leur électorat? C'est le cas en particulier à gauche. Enfin, vous l'avez dit Thomas, le sentiment de défiance est également installé envers les représentants du peuple. Les gilets jaunes en sont le fruit. Ils sont présents d'ailleurs parmi ces 33 listes individuellement, mais aussi par eux-mêmes, le plus clairement avec l'Alliance jaune du chanteur Francis Lalanne, plus en creux avec l'Évolution citoyenne de Christophe Chalençon, figure médiatique du mouvement, mais qui refuse de s'étiqueter sur une liste gilets jaunes.
Alors pour leur et en croire, les derniers sondages, le Rassemblement national passerait devant l'Alliance République en marche Modem en termes d'intention de vote, ce qui tendrait à résumer ces élections, ainsi que le président Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs n'a cessé de le faire, un match entre progressistes d'un côté, comprenez son propre camp, et puis les populistes souverainistes de l'autre.
Selon cette étude, Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement National, arriverait légèrement en tête des intentions de vote. Il obtiendrait 22% des voix, alors que la liste de La République En Marche arriverait juste derrière avec 21,5% des voix. À droite, François-Xavier Bellamy stagne à 13,5% d'intention de vote. Nicolas Dupont-Aignan à 5%. Et puis à gauche, il y a une bonne dizaine de listes. Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot pourraient obtenir jusqu'à 8,5% des suffrages, juste devant la France Insoumise, créditée de 8% des voix. Des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions. L'électorat est extrêmement volatile et à ce stade, seuls 40% des Français ont l'intention d'aller voter le 26 mai prochain.
Merci Anne Fauquemberg. Et puis pour évoquer toutes ces questions d'actualité, invité de la rédaction aujourd'hui, Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question, monsieur Michaud, ce scrutin va-t-il donc se résumer à un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ?
Alors c'est souvent le cas dans les élections européennes. On sait que la tête de liste du parti présidentiel, mais justement, représente le parti du président. Et en l'occurrence, le président de la République pâtit d'une impopularité record, 27% d'après les chiffres d'OpinionWay. C'est le score le plus bas depuis le début du quinquennat. Dans ces conditions, qui suivent évidemment un premier semestre très agité sur le plan social, hein. C'est la troisième grande crise sociale après mai 68 et 1995 que nous venons de vivre avec la crise des gilets jaunes. Évidemment, le chef de l'État, à travers Nathalie Loiseau, sera au centre de cette élection.
Question de Stéphane Robert.
Comment se fait-il qu'on retrouve en tête des intentions de vote les deux formations politiques dont les têtes d'affiche figuraient au second tour de l'élection présidentielle? Est-ce que on rejoue le match?
Oui, d'une certaine manière. C'est le premier test électoral du quinquennat. Vous venez de le dire. Ça a une importance très particulière. Et puis cet affrontement lui-même est d'une certaine manière théâtralisé à la fois par les représentants du Rassemblement National et par le chef de l'État également qui cherche à mettre en scène cette opposition, ce duel entre les progressistes et les populistes.
On sait qu'à l'occasion des élections européennes, les thématiques nationales prennent souvent le pas sur les questions européennes. On a l'impression que cette fois, c'est encore plus vrai que pour les scrutins précédents.
Oui, c'est encore plus le cas. Les enjeux européens qui sont pourtant de grande importance, hein, comme par exemple le Brexit ou la politique budgétaire au niveau européen, la politique commerciale entre les inquiétudes qui peuvent venir de Chine, celles qui peuvent venir des États-Unis également, toutes ces questions qui sont de vrais enjeux, sont plutôt au second rang, voire au dernier rang des préoccupations des électeurs.
Qu'est-ce qui freine l'entrée en campagne véritablement sur ces élections? Est-ce que c'est le contexte avec le grand débat, les gilets jaunes, ou est-ce que c'est structurel le fait qu'on entre tardivement en campagne aux élections européennes?
Alors évidemment, le grand débat qui s'est éternisé, qui a duré plus que ce qui était prévu, fait que l'entrée en campagne est très tardive. Mais généralement, les élections européennes ressemblent plutôt à un sprint qui va débuter là, hein, une quinzaine de jours seulement. Pour une raison simple, c'est une élection qui mobilise peu les Français, qui les intéresse peu. C'est sans doute celle qui suscite le plus d'abstention. Là, on pourrait battre un record d'abstention dans le cadre de ce scrutin du 26 mai.
C'est ce que vous mesurez ?
Nous mesurons un taux de participation à 39%, ce qui signifie donc une abstention supérieure à 60%. Ça n'a jamais été le cas. Par conséquent, les médias peut-être s'intéressent moins à ce scrutin qu'à d'autres.
Et pourquoi ça n'intéresse pas les Français? Ou peu?
Ça n'intéresse pas les Français d'abord parce que c'est une architecture institutionnelle assez complexe. Ils ont du mal à bien comprendre les tenants et les aboutissants, et puis parce qu'ils sont centrés sur des problématiques nationales qui sont extrêmement fortes, la question du pouvoir d'achat, la question du chômage, la question du terrorisme également.
Sur les dynamiques à l'œuvre là, vous mesurez, d'autres enquêtes le mesurent également, une tendance à la baisse pour La République En Marche et un Rassemblement National qui aurait tendance à passer devant La République En Marche. C'est dû à quoi ?
Oui, chez nous, l'écart est encore plus marqué puisqu'il est de 3 points et a tendance à se stabiliser. C'est dû à plusieurs choses. D'abord, peut-être une entrée en campagne de la part de Nathalie Loiseau qui était un peu hasardeuse avec quelques faux pas médiatiques, sa déclaration de candidature, la présentation des listes, cette polémique sur son appartenance à une liste d'extrême droite à Sciences Po. On voit que là, il y a un peu de tâtonnement au plan médiatique et puis une forme qui est peut-être un peu moins bonne que...
Ça fait pas une très bonne campagne.
Un fond qu'elle maîtrise beaucoup mieux.
C'est ça que vous voulez dire, elle fait pas une très bonne campagne.
Bah, jusqu'à présent, l'entrée en campagne est peut-être... Mais la campagne va débuter, et peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer d'elle.
Quelles seraient les conséquences pour Emmanuel Macron si sa formation politique n'arrive pas en tête? Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est de l'ordre du symbolique?
Bon, c'est important parce que c'est le premier test du quinquennat. Comme vous l'avez dit, c'est d'une certaine manière le match retour du second tour de l'élection présidentielle. Symboliquement, avoir la liste du Rassemblement national en tête, comme lors des dernières élections européennes, c'est pour le Rassemblement national, ce serait un nouvel élément de dynamique, en tous les cas de réenclenchement d'une dynamique électorale. Et puis pour Emmanuel Macron, qui a fait de l'Europe un axe structurant de sa campagne électorale lors de l'élection présidentielle et de son positionnement politique, ce serait évidemment un revers.
Une dernière question en quelques mots. Il y a une liste gilet jaune avec le chanteur Francis Lalanne qu'on pensait censé affaiblir le Rassemblement national. Apparemment, jusqu'ici, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas.
Oui, vous avez raison. Théoriquement, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit la liste du Rassemblement national qui pâtisse d'une éventuelle liste des Gilets jaunes ou apparentée aux Gilets jaunes. Jusqu'à présent, ce type de liste est mesuré à hauteur de 1% seulement dans les intentions de vote. Ça ne porte pas à conséquence pour l'instant.
Merci Frédéric Michaud, directeur, je le rappelle, des études chez OpinionWay, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Globalement calme, avec toutefois quelques risques d'averses sous les passages nuageux de la région parisienne à la frontière belge. Quant aux températures plus fraîches, elles seront comprises entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.